ces papiers montraient que le muscle, finalement, n'était pas limité à ce rôle mécanique, esthétique, performance, mais bien que le muscle devait être considéré comme une véritable glande endocrine. Si je suis capable de stimuler mon muscle, je vais pouvoir avoir un impact sur la santé, notamment métabolique, mais aussi sur le système immunitaire, sur l'os, sur le cerveau. C'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, dans la dépression, quel psychiatre pas conseiller d'aller faire du renforcement musculaire à son patient. Et donc, c'est vrai que je dirais que le numéro 1 en complément alimentaire, c'est la Le muscle, c'est le plus gros capteur, le plus gros consommateur de glucose. Donc, c'est-à-dire que dès que j'ai une problématique d'hyperinsulinisme chronique, d'insulinorésistance, une des stratégies qu'il va falloir mettre en place, ça va être de développer la masse musculaire.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Salut à tous. Juste pour vous dire qu'on aura le plaisir de vous retrouver au Sommet de l'Hypersanté qui aura lieu le 21 et 22 mars 2026 à Paris. On y animera un atelier sur l'activité physique, les clés de l'entraînement sur la longévité. J'y serai avec Vincent et Alexandre, bien entendu. Mais vous retrouverez également tout un tas de passionnés sur la longévité et la santé, des médecins, des nutritionnistes, des chercheurs. Un très beau programme. Je vous laisse consulter, on mettra le lien du site en description et on a un code promo pour ceux que ça intéresse pour l'événement. N'hésitez pas à nous y retrouver. On se voit à Paris le 21 et 22 mars 2026. Ciao tout le monde. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on va parler du muscle que tout le monde associe à la force, au physique, à la performance. Mais si on vous disait que le muscle, c'est bien plus que ça et qu'il joue un rôle essentiel sur votre métabolisme. On va voir pourquoi le muscle ne sert pas seulement à courir plus vite, à soulever plus lourd, mais qu'il joue un rôle central dans la régulation de la glycémie, la sensibilité à l'insuline, le dialogue avec d'autres organes et même la prévention de nombreuses pathologies. On parle également beaucoup de cardio, hein, de la VO2 max. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est surcoté? On a la chance aujourd'hui de recevoir un docteur en pharmacie qu'on a déjà reçu d'ailleurs, spécialisé en micronutrition, Anne Lucas, qu'on va laisser se présenter tranquillement. Juste avant ça, toujours accompagné du Pierrot de la team 1000%. Comment ça va, Pierre?
Super. Ravi de recevoir Anne pour ce deuxième épisode. On avait fait un épisode sur le métabolisme précédemment.
On vous mettra les liens d'ailleurs en description de la vidéo sur les deux premiers épisodes qu'on a fait. On va laisser Anne se présenter tranquillement. Et d'ailleurs, Anne qui sera présente au sommet de l'hypersanté, où on sera là nous aussi, le 21-22 mars, il me semble, à Paris. D'ailleurs, on a hâte de vous retrouver. J'espère que vous serez là. Il y a beaucoup de conférences et vous aurez beaucoup de docteurs aussi comme Anne. Donc, c'est vraiment le sommet de la longévité en France. On a hâte aussi de te voir. Anne, je te laisse la parole.
Merci à tous les deux pour cette seconde invitation. Je suppose donc que la première a porté ses fruits, si vous avez renouvelé l'expérience. Alors, on avait parlé effectivement de santé métabolique qui est, on va dire, mon domaine d'expertise. Et donc, effectivement, je suis docteur en pharmacie, spécialisée en micronutrition. J'ai une dizaine de diplômes universitaires qui m'ont permis d'acquérir cette expertise. Mais on a toujours à apprendre. Je dis toujours, on ouvre une porte, il y en a 10 derrière. Mais c'est passionnant. C'est ça qui nous motive à continuer à apprendre tous les jours. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je ne viens pas parler de santé métabolique. Je viens parler de santé musculaire, mais le lien est tellement important entre les deux que, effectivement, c'est un domaine auquel je me suis intéressée tardivement. Trop tardivement, bon, mieux vaut tard que jamais, mais qui me semble aujourd'hui indispensable à investiguer quand on est un pro de santé. Et pour conclure ma petite introduction, j'ai une petite activité clinique encore aujourd'hui où j'accompagne des personnes qui présentent des troubles métaboliques. Donc, en aucun cas des sportifs qui sont en objectif de performance, mais vraiment des individus qui présentent du surpoids, d'obésité, syndrome métabolique, diabète de type 2. Donc ça, c'est le type d'accompagnement que je propose. Mais sinon, la plus grande partie de mon activité, je la consacre à la formation. Et encore une fois, pas du grand public, formation des professionnels de santé, du médecin généraliste au spécialiste, au kiné, ostéo, diététicien, naturopathe, pharmacien en reconversion, pour les aider à développer cette démarche en micronutrition, médecine fonctionnelle. Voilà pour ma petite intro.
Mais super, surtout que là, on parle de ce thème parce que tu as aussi fait une formation sur le sujet, donc tu as vraiment travaillé ça et ça me tenait aussi à cœur d'en parler avec toi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à étudier le muscle et son importance au niveau de la santé globale?
Alors en fait, quand j'ai commencé à proposer des accompagnements pour optimiser la santé métabolique du grand public, on va dire, je me suis quand même très vite orientée vers la modification du contenu de l'assiette. Et vraiment, j'ai appliqué cette fameuse règle du 80-20, 80% ça se joue dans l'assiette et 20% ça se joue avec les baskets. Parce que pour moi, quand on mettait en place l'activité physique, en tout cas telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est dans le but de répondre à la théorie psycho et d'augmenter la dépense énergétique, notamment en proposant de faire de l'activité d'endurance, l'endurance zone 2, pour augmenter les calories dépensées. Et je n'avais vraiment pas du tout envie de m'inscrire dans cette approche de la théorie psycho, non pas qu'elle soit fausse, mais juste qu'elle ne représente que la partie immergée de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, et que nous, en tant que micronutritionnistes, en tant qu'experts en médecine fonctionnelle, on est là pour aller chercher la cause la plus profonde qui explique le symptôme. Et on pourrait donc considérer que le déséquilibre de la balance énergétique, ce n'est pas la cause profonde, c'est une conséquence d'un déséquilibre plus profond. Et donc, ça m'embêtait tout particulièrement de devoir proposer, insister sur l'activité physique, parce qu'elle était vraiment considérée comme étant un outil pour augmenter la dépense énergétique. Et moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et donc, j'ai commencé à voir plusieurs papiers sortir sur l'intérêt de la masse musculaire, donc du tissu musculaire squelettique, strié squelettique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a longtemps considéré, d'ailleurs dans le domaine du sport, on considère encore comme ça. Je vais développer ma masse musculaire pour le côté performance, force, esthétisme. Beaucoup quand même, hein, on le voit dans certains domaines. Et c'était vraiment pas quelque chose que moi je voulais aborder, mais ces papiers montraient que le muscle finalement n'était pas limité à ce rôle mécanique, esthétique, performance, mais bien que le muscle devait être considéré comme une véritable glande endocrine. Donc que le muscle est capable de sécréter, on le sait aujourd'hui, on est capable d'isoler, d'identifier des molécules sécrétées par le muscle quand on le met sous tension, quand on le contracte, donc des myokines. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable de savoir que si je suis capable de stimuler mon muscle grâce à ces molécules de signalisation finalement, je vais pouvoir avoir un impact sur la santé, notamment métabolique, qui est mon domaine de prédilection, mais aussi sur le système immunitaire, sur l'os, sur le cerveau. En fait, notre muscle, c'est, on peut le dire aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'interviendrai à l'hypersanté, c'est l'organe de la longévité. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, intellectuellement parlant, de me dire, OK, aujourd'hui, je vais pas aider les personnes que j'accompagne à faire de l'activité physique, à augmenter leur masse musculaire pour l'esthétisme, pour brûler des calories. Ça m'intéresse pas du tout, intellectuellement parlant, c'est plutôt boring. Mais maintenant que je sais que le muscle, c'est une glande endocrine à part entière et qu'on est capable de jouer sur la santé globale grâce au muscle, là, ça m'intéresse. Et donc, voilà pourquoi est-ce que je me suis intéressée. Désolée, c'est un peu long. Non, mais voilà pourquoi est-ce que je me suis intéressée à la santé musculaire.
C'était juste pour revenir sur ces calories in, calories out. Donc, ce paradigme, on en a parlé, cette théorie psycho, pendant le premier épisode. Donc, on l'a abordé en long, en large, en travers. Juste pour les auditeurs, peut-être, qui se demandaient ce que c'était. Parce que le psycho, ça ne parle pas à tout le monde. Je pense que toi, tu es très habitué à ces terminologies-là. Et nous, et où les auditeurs, ouais, peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que c'est tout un changement de paradigme de voir le muscle comme une glande, comme un organe, et plus juste comme du tissu musculaire, de la viande, quoi.
Avec un rôle mécanique et esthétique uniquement. Mais c'est un petit peu comme le tissu adipeux. Moi, j'ai vraiment fait le parallèle. Le tissu adipeux, on a aussi longtemps pensé que c'était juste un tissu qui était là pour stocker des calories et être une réserve d'énergie. Et puis, en fait, on s'est bien rendu compte que le tissu adipeux, c'était aussi une glande endocrine qui sécrétait plusieurs dizaines de cytokines extrêmement pro-inflammatoires quand on a des adipocytes qui sont en hypertrophie, et d'où le lien d'ailleurs syndrome métabolique, obésité et maladie inflammatoire et maladie cardiovasculaire. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de se dire, OK, ce muscle, il va nous aider à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et donc, encore une fois, l'idée, c'était pas, quand j'ai créé cette formation sur la santé musculaire, le but n'était pas du tout de me positionner dans l'univers du sport, de l'activité physique. Le but n'est pas de remplacer le coach sportif, le préparateur physique, mais vraiment de dire, OK, aujourd'hui, on a les données. On sait que pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il faut entretenir, préserver sa masse musculaire, lutter contre la sarcopénie. Bah, qu'est-ce que nous, en tant que professionnels de santé, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme recommandation aux personnes qu'on accompagne, que ce soit en termes de nutrition, de compléments alimentaires et d'activité physique de base, parce que on est des professionnels de santé. Si on fait aujourd'hui de la micronutrition, de la médecine fonctionnelle, on s'est inscrit dans cette démarche préventive d'optimisation santé. Et donc, on peut plus passer à côté du muscle. C'est pas possible. Donc, voilà, ça me semblait essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette formation qui s'adresse pas aux coachs sportifs, qui s'adresse vraiment aux pros de santé qui veulent pouvoir, dans le cadre de leur consultation, pouvoir faire des recommandations. Et surtout, comme je dis souvent, on ne peut bien prendre en charge que ce que l'on comprend, c'est-à-dire de revenir sur tous ces mécanismes physiologiques et biochimiques qui expliquent comment est-ce qu'on prend de la masse musculaire. C'est quoi la muscle protein synthesis? Comment est-ce qu'on synthétise la masse musculaire? C'est quoi les voies en jeu? Quels sont les facteurs inhibants? Quels sont les facteurs qui vont potentialiser cette grande voie, hein, dont on parlera peut-être tout à l'heure, la voie mTOR, c'est hyper important. Et si on comprend tous ces mécanismes qui sont aujourd'hui bien élucidés, ben on va pouvoir être particulièrement performant dans les recommandations qu'on va faire.
Avant de venir vraiment sur comment optimiser tout ça, est-ce qu'on pourrait à peine revenir un petit peu en arrière et expliquer un petit peu aux gens justement l'influence que va avoir le muscle sur les autres systèmes? Justement, le but, c'est pas d'être dans ta formation, mais plus de vulgariser, mais de montrer justement les différents liens qu'il peut y avoir.
Bien sûr. Alors, je vais d'abord parler du lien qui me semble le plus évident, c'est celui entre santé musculaire et santé métabolique. Aujourd'hui, on sait que les troubles métaboliques, ils sont en lien avec l'intolérance à la consommation inadaptée de glucides et donc à la perturbation des glycémies, c'est-à-dire d'avoir des hyperglycémies chroniques qui vont entraîner du stress carbonique, de l'hyperinsulinisme chronique, de l'insuline résistance. Et ben, plus vous allez avoir de muscles, plus vous allez être capable d'utiliser ce glucose, de le stocker ou de l'utiliser sous forme de glycogène musculaire, puis ensuite de l'utiliser. Donc le muscle, c'est le plus gros capteur, le plus gros consommateur de glucose. Donc c'est-à-dire que dès que j'ai une problématique d'hyperinsulinisme chronique, d'insulinorésistance, d'hyperglycémie chronique, d'hémoglobine glycée élevée, ben, une des stratégies qu'il va falloir mettre en place, ça va être de développer la masse musculaire justement pour améliorer l'utilisation du glucose. Quand vous avez votre glycémie qui augmente, vous avez l'insuline d'air qui est sécrétée, on active une voie qui s'appelle la voie I3K/KT et IRF. Voilà, bref, vous avez les glutes-4 qui vont s'exociter et les glutes-4 vont faire rentrer, c'est le transporteur, vont faire rentrer le glucose dans la cellule pour permettre à la glycémie de se normaliser. Donc, un moyen de pouvoir normaliser la glycémie, améliorer le métabolisme insulino-glucidique, ben, c'est de développer ou en tout cas d'éviter de perdre de la masse musculaire. Donc ça, c'est vraiment un lien qui est essentiel. Mais vous, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme le muscle aujourd'hui est capable de sécréter plusieurs dizaines, voire sans doute plusieurs centaines de myokines qu'on ne connaît pas encore, ben les liens se font avec tous les axes finalement. Il est au cœur de la santé globale. Je pourrais juste vous citer par exemple les maladies neurodégénératives. Ben, on sait que quand on contracte son muscle, on va avoir une production d'une myokine qui s'appelle l'irisine. Et cette irisine est capable d'aller augmenter la synthèse du BDNF, donc le Brain-Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur neurotrophique pour nos neurones. Donc, on améliore la synaptogenèse, la neurogenèse, en contractant son muscle. C'est quand même incroyable. On pourrait parler de la dépression, les troubles anxio-dépressifs. Ben, on sait que lorsque l'on va contracter son muscle, on va avoir une modification dans la biodisponibilité de certains acides aminés qui servent à produire les neuromédiateurs, comme la sérotonine. Donc, on va modifier notamment le métabolisme du tryptophane avec la voie des idéaux. Donc, on va avoir une meilleure humeur en pratiquant une activité physique et en contractant son muscle. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la dépression, quel psychiatre va conseiller d'aller faire du renforcement musculaire à ses patients? Et ben voilà, ça devrait faire partie des ordonnances.
C'est pas juste de la dopamine, en fait. C'est bien plus.
Alors là,
que ça.
Là, Souvent, on dit que l'activité physique, on a le côté bien-être avec les endorphines, ce qui est vrai, hein, ce côté un peu cool, mais d'autres mécanismes vont venir impacter la sécrétion de sérotonine, parce qu'on va avoir une modification du métabolisme de l'acide aminé tryptophane et d'une voie qui s'appelle la voie d'indole dioxygénase. Donc, on va vraiment avoir une meilleure synthèse de sérotonine, et la sérotonine, c'est le nominateur du bien-être, de la zen attitude. Extrêmement, extrêmement intéressant.
Et je pensais que la sérotonine, elle était sécrétée, tu vois, à 90% au niveau du tube digestif.
Tout à fait, mais on a besoin justement d'avoir un passage du tryptophane au niveau de la barrière hématoménergique pour pouvoir produire la sérotonine au niveau cérébral. C'est essentiel. Et l'activité physique va permettre en fait de déséquilibrer le ratio entre notamment les acides aminés branchés et le tryptophane, en faveur du tryptophane. Donc le tryptophane va passer plus facilement la barrière hématoménergique et on pourra produire cette sérotonine au niveau cérébral qui est extrêmement importante. La sérotonine fait partie de nos neuromédiateurs inhibiteurs avec le GABA. Donc quand un patient présente une dépression, une des grandes classes pharmacologiques qu'on va utiliser, ce sont les IRSS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais je me rappellerai toujours de ce que dit mon professeur de cœur, le professeur Castrango, il explique que la recapture de rien, bah, ça sert toujours à rien. Donc, en fonctionnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter les taux de sérotonine endogène. Et pour ce faire, une des stratégies, c'est de favoriser le passage du tryptophane au niveau de la barrière hématoménergique, et l'activité physique a cette capacité.
C'était Vincent Foulonneau qu'on avait reçu dans le podcast et qui nous parlait justement du lien entre le renforcement musculaire, le travail de force et aussi le système plutôt immunitaire. Est-ce que tu confirmes aussi ce lien entre
Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en oncologie, aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant aussi de recommander une activité physique de résistance parce que dans les myokines sécrétées par le muscle, on va avoir des myokines qui vont avoir un impact extrêmement positif sur le système immunitaire.
Ok. Ben écoute, je pense qu'on a été assez complet sur les différents rôles. Est-ce qu'il y en a un dernier peut-être qu'on a oublié avant de venir dans le concret ?
Moi, j'avais vu la thyroïde aussi.
J'avais vu un lien avec la thyroïde en faisant les recherches pour préparer le podcast. Je ne sais pas si tu le vois ou
avec
pas.
Avec la thyroïde, ça serait même un petit peu bidirectionnel parce que des troubles thyroïdiens peuvent impacter la santé musculaire. Par exemple, quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, on va avoir un catabolisme musculaire augmenté. Moi, je parlerais d'un autre axe bidirectionnel qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est un vrai sujet chez la femme en périménopause, ménopause, c'est les problématiques d'ostéopénie et d'ostéoporose. Il y a vraiment un dialogue, un cross-talk, un dialogue bidirectionnel entre l'os et le muscle. Le muscle va vraiment entraîner une pression sur l'os et c'est ce qui va permettre le turnover de l'os, hein, le renouvellement osseux. Donc, toutes les femmes en périménopause, ménopause, elles devraient faire une activité physique adaptée pour limiter, déjà il y a la chute des œstrogènes, pour limiter cette perte osseuse. Donc, qui dit perte de masse musculaire dit perte osseuse et inversement. Donc, le muscle et l'os, c'est vraiment un dialogue bidirectionnel extrêmement important.
C'est de l'entraînement physique en charge qu'il leur faut.
Oui, je pense qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu de quel type d'activité physique, mais oui, bien entendu, c'est une tension musculaire qu'il faut apporter.
Mais justement, à devenir vraiment dans le pratique pour nos auditeurs, on va y arriver. Désolé, on vous tease un petit peu. On voulait parler aussi de la différence qu'il peut y avoir avec le cardio. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup cette mode du running, de la course à pied. Et pour la santé, on dit souvent qu'il faut faire du renfo et il faut faire du cardio. Ça, c'est l'idéal. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Quelles sont les différences ? Comment on pourrait motiver justement quelqu'un qui fait beaucoup de cardio à faire un petit peu de renfo ? Et justement, est-ce qu'il y a des points négatifs à faire aussi un peu trop de renfo, un peu trop de cardio, pardon ? Souvent, on a beaucoup ce stress oxydatif chez les gens qui en font beaucoup, qui peut être décrié. Donc, comment amener les gens à faire un peu plus de renfo, peut-être un peu moins de cardio ?
Ok, alors en fait, tout est une histoire d'équilibre. Donc là aussi, encore une fois, si on comprend la biochimie métabolique, la physiologie, c'est assez simple d'ensuite de le mettre en pratique. Donc moi, pendant longtemps, j'ai boudé l'endurance, notamment l'endurance zone 2, parce que justement, aujourd'hui, quand on met en avant l'endurance zone 2, enfin la majorité des coachs sportifs ou voilà des professionnels non formés en micronutrition vont mettre en avant l'intérêt de l'endurance zone 2, bon, mais bien sûr pour la V2 max, mais bon, surtout pour le côté calories. Okay. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes en salle de sport monter sur des tapis et faire 45 minutes en disant « Oh, j'ai brûlé 200, 300 calories. » Enfin, ça fait un yaourt et demi, quoi. Donc, c'est quand même pas idéal. Maintenant, quand on revient à la physiologie et qu'on sait qu'est-ce que ça entraîne de faire l'endurance zone 2, mais moi, je peux vous dire que je refais de l'endurance zone 2 toutes les semaines. Deux fois par semaine, je fais de l'endurance zone 2 parce que j'ai compris qu'est-ce qui se passe au niveau des voies de signalisation. Quand vous faites de l'endurance zone 2, vous n'activez pas du tout les mêmes voies que celles que vous activez quand vous faites du renforcement musculaire. Et ce sont des voies qui sont antagonistes d'ailleurs. Il faut l'équilibre entre les deux. Donc quand vous faites de l'endurance zone 2, vous allez avoir une action sur les mitochondries. On est sur les voies AMPK, PGC alpha. On va faire de la biogenèse mitochondriale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va avoir on va créer de nouvelles mitochondries. On va faire également, si on fait du HIIT cette fois-ci, donc pas de l'endurance zone 2, mais du HIIT, de la haute intensité, on va faire de la mitophagie. C'est-à-dire qu'on va éliminer proprement les mauvaises mitochondries dysfonctionnelles qui font du stress oxydant et qui produisent pas beaucoup d'ATP. Donc, quand vous faites de l'endurance, que ce soit de l'endurance zone 2 ou du HIIT, vous allez optimiser votre parc mitochondrial. Et on pourrait dire que les mitochondries sont aussi au cœur de notre longévité. On parle aujourd'hui de médecine mitochondriale. L'endurance zone 2, voilà, c'est important pour ça, pour votre santé cardiovasculaire, parce qu'on sait que la VO2 max, c'est aussi un marqueur essentiel de longévité. C'est important pour vos mitochondries, donc via la voie AMPK et PGC1 alpha. Okay? Donc oui, il faut faire de l'endurance, zone 2 et un peu de HIIT. Okay? Ça, c'est la première partie.
Et oui, et juste pour rebondir sur ça, tu disais développer la VO2 max. Le problème de trop de zone 2 ou des zones intermédiaires, c'est que certes, tu vas travailler ton endurance fondamentale, ton endurance de base, mais il faut pas oublier d'aller chercher aussi de la haute intensité pour développer sa VO2
Un
max. Et oui, d'où de faire du HIIT, on n'est pas du tout
tweet aussi.
sur les
Pas du
mêmes
tout.
stratégies
Ouais.
d'entraînement.
D'ailleurs, on va pas activer de la même manière AMPK et PGC1. Ça va pas être les mêmes intensités. Et notamment sur la mitophagie, on va l'atteindre que si on fait du HIIT. Pas de l'endurance zone 2. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et c'est vrai que c'est pour ça que normalement, dans un programme pro santé musculaire, on doit tenir compte de cette voie AMPK, de PGC1, de là, parce que quand on parle de santé musculaire, on ne peut pas oublier la mitochondrie. Une bonne santé musculaire, c'est des mitochondries qui fonctionnent bien. Si on n'a pas des mitochondries qui fonctionnent bien, comment vous voulez qu'on brûle des acides gras? C'est impossible. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, dans un programme idéal, on devrait voir deux entraînements au moins d'endurance zone 2 et un HIIT, par exemple. Mais par contre, ça n'a aucun impact sur le muscle, la quantité de muscle, la qualité du muscle, la force, la fonctionnalité. Donc là, c'est une voie complètement différente, opposée, qui s'appelle la voie mTOR. Et là, j'entends souvent oh, mTOR, cancer, prolifération cellulaire, il faut pas activer mTOR. Mais les gars, il faut rester nuancé quand même, hein. Si elle existe, cette voie mTOR, c'est qu'on en a besoin. Besoin de la voie mTOR. Juste que on est toujours très binaire dans dans ce qu'on va mettre en place. Vous savez, les pro-longévités qui sont pro-AMPK, qui sont anti-mTOR, mais ça n'a aucun sens. Le tout, c'est d'avoir un équilibre entre mTOR et AMPK. Surstimuler mTOR, effectivement, ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais c'est pas ça qu'on les propose dans les accompagnements. Le but, c'est de stimuler de manière adaptée mTOR et d'avoir une alternance entre la stimulation d'mTOR et d'AMPK. D'où des phases d'entraînement de résistance pour stimuler mTOR. Et mTOR, c'est la voie de la MPS, de la Muscle Protein Synthesis, donc la synthèse de protéines musculaires. Il n'y a
La
pas d'autres
masse.
moyens. Il n'y a pas d'autres moyens. On peut pas réinventer la biochimie métabolique. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Si vous voulez construire du muscle, ça doit passer par la stimulation de cette voie mTOR et donc ce fameux complexe qui s'appelle mTORC1. Donc, si vous n'activez pas ce complexe, vous ne pouvez pas créer du muscle. C'est impossible. Donc, je ne dis pas qu'il faut le stimuler 24 heures sur 24 tous les jours. Je dis qu'il doit être stimulé. Ça, c'est une évidence. En alternance avec l'MPK, parce qu'encore une fois, les deux sont antagonistes. Donc, il y a des jours où je vais faire de la résistance, il y a des jours où je vais faire de l'endurance, ou le matin ou le soir, voilà, et ça serait un peu contre-productif de faire tout compacter en même temps, parce que vous avez bien compris que les deux voies sont antagonistes. Et c'est pareil sur la nutrition. En fonction de ce que vous mangez, vous allez stimuler mTOR et vous pouvez également stimuler MPK. Donc, le tout, c'est d'avoir l'entraînement adapté pour avoir le bon équilibre mTOR à MPK et d'avoir la nutrition adaptée pour avoir le bon équilibre mTOR à MPK. Je n'ai jamais dit, parce que On m'a déjà reproché ça, que j'étais une pro mTOR. J'ai dit que j'étais une pro mTOR. J'ai dit qu'il faut trouver l'équilibre entre mTOR et MPK. Et que quelqu'un qui va faire que de l'endurance, il sous-stimule mTOR. Et quelqu'un qui fait que de la résistance, il sous-active à MPK. Donc, c'est l'équilibre des deux qu'il faut trouver. Il faut aménager son emploi du temps, hein, je crois.
Et justement, par rapport au muscle lui-même, une question qu'on se pose souvent, c'est là, les gens sont toujours extrêmes, comme tu le dis. Donc, on pourrait se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à développer au maximum ma masse musculaire. Donc, ça serait quoi une bonne masse musculaire? C'est quoi du bon muscle? Est-ce qu'il y a un rapport poids-taille qui est intéressant? Même si, bien sûr, ça dépend après. Ça ne veut rien dire, le poids lui-même, je sais que ça dépend de la masse musculaire. Mais est-ce qu'on peut avoir des rapports? Parce que tu vois, moi personnellement, je n'ai pas l'impression que faire 10 kilos de plus que ma taille, et derrière, je vais être forcément en meilleure santé. J'ai l'impression que c'est un peu du muscle inutile pour ma santé. Où c'est que tu mets cette barrière justement où ça va être intéressant d'avoir du muscle et au-delà, ça ne va pas être très intéressant, comme un peu un coureur qui va faire du bien et qui au bout d'un moment, quand il en fait trop, eh bien, on va passer de l'autre côté.
Oui, c'est vrai que c'est une notion qui est intéressante et assez difficile à déterminer parce qu'on n'a pas vraiment de très bons marqueurs. Il faudrait pouvoir faire passer des DEXA, des scanners à toutes les personnes qu'on accompagne, ce qui est un petit peu compliqué. Donc, l'idée, c'est surtout de se dire est-ce qu'il y a un bon ratio entre la masse musculaire et la masse grasse? Enfin, c'est toujours ce ratio-là qui est important à regarder. Et finalement, la masse grasse, on va surtout l'évaluer non pas avec un pèse-personne, mais plutôt avec un mètre ruban et vérifier les tours de taille, notamment. Après, la masse musculaire, oui, on pourrait avoir une masse musculaire, quantité de muscles importante, mais que le muscle soit pas du tout fonctionnel et qualitatif. Et donc, ça aussi, il y a plusieurs critères, enfin, pour évaluer la santé musculaire. On va parler de, bien entendu, la quantité, la qualité, la fonction et la force. Donc, c'est vrai que quand on voit, certains extrêmes de culturistes avec des masses musculaires énormes, là, on pourrait parler de la fonctionnalité de ce muscle. Voilà, restons dans des proportions raisonnables et naturelles.
Mais en fait, leur problématique, c'est que là, ce sont des athlètes qui s'entraînent à l'extrême. Ils utilisent que la voie de signalisation mTOR. Et par contre,
il n'y a pas du tout d'AMPK. Les mitochondries ne sont pas du tout fonctionnelles. Tout à fait.
Ils le décrivent bien, hein, que... Je crois que c'est...
Et puis, dans quel contexte, en plus, il stimule mTOR? C'est aussi, il faut se poser la question du climat hormonal. Voilà.
Mais c'est des extrêmes qui ne concernent pas, je pense, les auditeurs. J'écoutais Stéphane Matala, qui est un bodybuilder français, là, qui disait qu'il était handicapé quand il était en période de compète parce qu'il est essoufflé en montant les escaliers. Donc, alors que c'est un gars qui s'entraîne 25 heures par semaine, 30 heures par semaine et qui dédie sa vie à l'entraînement. Et il est essoufflé en montant des escaliers alors que c'est un monstre.
Alors, nous, honnêtement, en tant que micro-nutritionniste, on n'accompagne pas de sportifs de haut niveau, on n'accompagne pas d'athlètes, à moins de se spécialiser dans ce domaine-là et d'avoir aussi cette casquette de coach sportif et de préparateur physique. Nous, c'est vraiment l'individu lambda qui peut présenter des pathologies ou non et qui souhaite vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, on ne va pas lui donner des objectifs de masse musculaire inatteignables. Le but, c'est vraiment de se dire, OK, notre objectif, c'est que vous ayez un meilleur ratio entre votre masse musculaire et votre masse grasse. Voilà, et que donc, on va complètement mettre de côté la balance parce qu'en plus, ça les inquiète de voir le poids sur la balance augmenter, alors même que c'est plutôt positif dans le sens où si on arrive à développer un petit peu de masse musculaire, on sait qu'on va avoir un impact positif sur la santé globale et notamment sur la santé métabolique.
Et justement, vous avez parlé de muscles en bonne santé. C'est quoi un muscle en bonne santé? Qu'est-ce qu'on va chercher à travailler? Est-ce qu'on va travailler plutôt la force, plutôt l'hypertrophie, donc le volume? Est-ce qu'on va plutôt travailler l'endurance de force? Il y a tellement de modalités différentes.
Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on disait, hein. C'est plusieurs dimensions. Et c'est
tout
pour ça
spectre.
Que l'entraînement en lui-même, il doit être multidimensionnel pour pouvoir travailler et la quantité, et la qualité, et la force, et la fonction. Et encore une fois, la mitochondrie, il faut des mitochondries fonctionnelles. Il faut un muscle qui soit pas trop gras, mais en même temps, on le voit chez les sportifs, ils ont une infiltration de de lipides. La grosse différence avec le sujet obèse, qui a aussi une infiltration de lipides musculaires, c'est que le sportif, il a des mitochondries hyper fonctionnelles et il va utiliser ces lipides à des fins énergétiques. Alors que le sujet métabolique, bah lui, il y a une insulinorésistance qui fait qu'il sera dans l'incapacité d'utiliser ces lipides stockés au niveau musculaire. Et c'est le début d'ailleurs de l'insulinorésistance musculaire. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que les troubles métaboliques et la physiopathologie démarre dans le muscle. C'est d'abord le muscle qui devient résistant à l'insuline, puis ensuite les autres organes, notamment le tissu adipeux et le foie. Donc, ce sont des théories qui sont mises en avant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de rester, je pense, nuancé, parce qu'encore une fois, le corps humain, c'est très complexe. On a plein de voies de signalisation différentes et que le but, c'est de trouver cet équilibre. Et pour trouver l'équilibre, c'est de pratiquer des activités physiques qui sont différentes et qui vont activer différentes voies, tout simplement pour améliorer la santé musculaire à 360 degrés.
Ben, c'est top. Et au niveau pratique, avant qu'on parte peut-être sur l'alimentation et la complémentation, qu'est-ce qu'on pourrait justement conseiller à nos auditeurs pour essayer de se construire du muscle? On sait bien sûr que ça ne vaut pas une formation, mais si on peut leur donner quelques pistes, et on rappelle qu'on te retrouvera à l'Hyper Santé d'ailleurs à Paris dans deux, trois semaines, je crois, le 21 mars, et également ta formation où il y aura le lien en description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et poser vos questions aussi en commentaire. Ça, je pense que le docteur
Anne nous a donné un code promo en plus pour sa formation.
On vous mettra tout ça en description.
Ouais. Alors, réservé aux professionnels de santé, on a un guide pratique justement où il y a un entraînement de 12 semaines. Ça, c'est vraiment top parce que effectivement, moi, je ne suis pas coach sportive. Mais j'étais vraiment hyper embêtée dans le cadre de mes accompagnements. Lorsque j'abordais l'activité physique, j'étais obligée toujours de dire, allez sur YouTube, regardez tel coach sportif qui propose des entraînements. Je me suis dit quand même, j'aimerais pouvoir augmenter un peu la valeur de mes accompagnements. Et j'ai donc demandé à un coach sportif diplômé de nous créer un entraînement de 12 semaines. Et voilà, en tant que professionnel de santé, on peut remettre cet entraînement de 12 semaines. C'est un véritable outil motivationnel pour encourager le sujet sédentaire à se remettre en mouvement le temps de pouvoir trouver une salle de sport, de pouvoir trouver un coach sportif. Et donc, au niveau de l'entraînement, bien entendu, vous l'avez vu, on doit soumettre à MPK, donc on a cette notion d'endurance zone 2 et BGC alpha, donc le HIIT. Et puis, on a l'exercice physique de résistance. Donc, en fonction du niveau de la personne, on peut commencer au poids du corps, puis ensuite utiliser des élastiques, puis ensuite utiliser des poids. Le but, c'est qu'on ait une contrainte permanente qui augmente sur le muscle, parce que sans contrainte, on n'active pas la voie mTOR. Hein. Activer la voie mTOR, ça passe par différents signaux. La contrainte mécanique, le signal nutritionnel et puis des facteurs hormonaux. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir une femme de 45 ans qui ne fait pas du tout d'activité physique. Sur sa première semaine, elle va faire des squats au poids du corps et puis ensuite, elle va prendre des petites haltères de 2 kilos. Et puis, au fur et à mesure, la contrainte va augmenter et peut-être que dans 3 mois, elle sera capable de faire des squats avec une barre olympique de 20 kilos.
Je pense que les gens, ils ont une méconnaissance de la quantité d'activité physique qu'ils doivent faire sur la semaine. Et quand on parle de volume, on parle de quantité, de série de mouvements qu'ils doivent faire sur leur semaine. C'est comme la quantité de protéines que tu dois manger sur ta journée. Je pense qu'ils se trompent sur les ordres de grandeur. Et donc, peut-être tu me corrigeras là-dessus. Sur les recommandations, il serait intéressant pour gagner en masse musculaire et être sur de l'hypertrophie. A priori, pour vraiment activer mTOR et venir travailler cette voie-là, on devrait être entre 10 et 20 séries efficaces par semaine, efficace étant proche de l'échec, donc à 3 à 5 répétitions de l'échec. Donc, vous pouvez travailler effectivement soit en force, soit en endurance de force. Est-ce que ces ratios, tu vois, d'être sur 10 à 20 séries par semaine, 20 séries, c'est quand même beaucoup, mais déjà de se dire que si tu veux progresser sur tes squats et gagner en volume musculaire sur tes quadris, il faut que tu fasses 10 séries de squats dans ta semaine.
Oui, alors nous, sur le programme que David Tant a créé pour nous, il est parti sur des circuits training où sur le premier volet qui dure 4 semaines, donc vraiment pour un niveau débutant, il a mis 3 entraînements full body par semaine. Donc en gros, moi, je dirais que pour quelqu'un qui démarre et qui veut vraiment travailler sa santé musculaire, aussi bien la quantité que la qualité, que la fonctionnalité, ça va être de partir sur au moins 2 entraînements full body par semaine, Donc forcément, si on fait du full body, ça rallonge un petit peu la séance puisqu'on va devoir travailler les muscles du haut du corps et du bas du corps. Et si on a le temps de plutôt faire du half body, donc vraiment de splitter ces séances, on fait des séances que dédiées au haut du corps, des séances que dédiées au bas du corps, au moins 3 séances pour la femme en privilégiant 2 séances bas du corps pour la femme parce qu'on va solliciter nos gros muscles. Hein, tu parlais des quadriceps, les ischios, les fessiers, et une séance haut du corps et plutôt l'inverse pour l'homme qui a tendance à vouloir un peu plus travailler le haut du corps que le bas du corps. Mais voilà, ce sera entre 2 et 4 séances par semaine et sur des durées de 30 minutes à 45 minutes de séance. Tu as parlé des proches de l'échec musculaire, c'est une notion qui est intéressante. Je pense qu'il faut adapter cette notion du nombre de reps, est-ce qu'on laisse des reps en réserve en fonction du niveau de fatigue de la personne, notamment la fatigue au niveau du système nerveux central. Forcément, quelqu'un qui est en burn-out, qui est complètement épuisé, on ne dira jamais d'aller à l'échec musculaire. Maintenant, quelqu'un qui est en super forme, tout va bien. Pourquoi pas, sur la dernière série, d'aller à l'échec musculaire et sur les deux premières, d'avoir une ou deux reps de réserve. Et en général, par groupe musculaire, on va faire 3 à 4 séries par groupe musculaire. Et comme on veut développer, faire une hypertrophie, on va plutôt faire des séries, chez la femme en tout cas, entre 8 et 12 reps, jamais beaucoup plus. Alors, voilà, et on essaye de faire des mouvements polyarticulaires sur le bas du corps. Donc des choses simples, mais il faut que ça soit bien exécuté. Des squats, des thrusts, des soulevés de terre, des fentes, ce genre de choses.
Et oui, c'est magnifique. J'adore les fentes. Ça, c'est mon...
Les quadrilles et moi, mais.
Et ouais. Mais en fait, tu vois, c'est cette. C'est parce que je discute tout le temps d'activité physique avec mes patients. Et tu sais, quand on parle des fourchettes de répétition, c'est pour ça que je précise encore c'est des séries efficaces. C'est-à-dire, efficace, sous-entendu, vous êtes proche de l'échec. Sous-entendu, des fois, il faut aller chercher l'échec pour savoir combien de répétitions vous êtes capable de faire. À ce poids-là. Parce qu'en fait, si vous écoutez les recommandations de Anne et vous faites, bon, mais moi, mes squats, je fais 8-12 répétitions, mais en fait, vous faites ça à poids du corps et en réalité, vous seriez capable de faire 35 répétitions.
Eh oui.
Et en fait, on n'est pas.
Il faut sentir quand même l'accumulation de lactate, il faut la sentir à un moment, hein, sinon, il y a un truc qui
va. Eh oui. Donc, il faut que vous alliez chercher cette sensation de difficulté dans l'effort pour être sur de la progression et
ça
sur
doit pas être simple, hein. Voilà, c'est exactement ça. La notion de contrainte. Si je ne contrains pas mon muscle en augmentant, du coup, soit, il y a plusieurs façons, soit le poids, soit le nombre de reps, soit les séries, je n'aurai pas de développement musculaire. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aimer, essayer de pousser un petit peu et d'aller un peu plus loin sans se faire mal en étant. Et effectivement, ça demande un petit peu de. Quand on y va pour la première fois, on ne sait pas, hein, donc de jauger un petit peu qu'est-ce que je suis capable de faire et puis on s'adapte.
On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-up complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés, inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique. C'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10, lien et code en description. Retour au podcast.
Si j'ai un problème métabolique, notamment, je ne sais pas si tu auras la réponse, je lance un petit peu un caillou comme ça, on verra. Est-ce qu'il y a quand même un modèle de renforcement qui est plus intéressant qu'un autre, justement, pour ce problème peut-être de glycémie? Est-ce que l'endurance, moi, tu vois, j'irais peut-être plus sur de l'endurance de force, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête. Et aussi, est-ce qu'il y a, ça fera peut-être la transition avec la nutrition, est-ce qu'au niveau, justement, alimentation, est-ce que ça peut être intéressant d'aller faire sa séance peut-être un peu plus à jeun, pas à jeun? Est-ce qu'il y a aussi un modèle autour de la séance au niveau alimentaire à mettre en place?
Alors là, on parle bien de sujet métabolique. Hein.
Et après,
donc,
on parlera
minima
justement pour
en surpoids.
Voilà.
Ah, voilà, un minima en surpoids obésité. Alors, moi, encore une fois, chez ces personnes-là, je dis bien, on ne fait pas d'activité physique pour augmenter votre dépense énergétique. Quand vous regardez, finalement, c'est vrai que c'est souvent un des arguments qui est mis en avant, mais prenez du muscle parce que le muscle consomme plus de gras, plus de calories que le gras, donc ça va augmenter votre métabolisme de graisse, blablabla, blablabla. Enfin, quand vous regardez combien de calories c'est en plus, ça reste quand même relativement dérisoire. C'est pour ça que, encore une fois, c'est une vision très binaire et très étriquée. Si le muscle améliore la santé métabolique, c'est pas tout particulièrement parce qu'il augmente le nombre de calories dépensées. C'est parce qu'il aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça, hein, et pas pour autre chose. C'est vraiment pour ça. Donc, l'objectif chez le sujet en surpoids-obésité, justement, ça va être de lui proposer d'avoir un entraînement très complet qui va associer résistance et endurance. Et là, on va vraiment s'adapter à la personne. Imaginons qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Bah, au lieu de faire de 45 minutes, 60 minutes d'endurance zone 2, bah, elle va peut-être faire plutôt du HIIT 2 fois par semaine parce qu'elle pourra caler plus facilement ces deux petits HIIT de 15-20 minutes. Okay mais il faudra toujours coupler ça à de la résistance. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé le guide que nous a créé David, parce que lui, il a fait des circuits training qui, effectivement, associent du cardio et du renforcement musculaire avec des jump squats, des thrusters, par exemple. On sent que ça va aussi bien faire monter le cardio.
Et je pense que Alexandre, il parlait de quelle voie métabolique était utilisée pour l'exercice et que tu allais privilégier. Parce que si on fait de la zone 2, tu vois, on est plus sur de la lipolyse, alors que si on est plus sur de l'intensité, on va plus sur quelque chose de glycolytique.
Oui, mais on va. Si vous faites de la zone 2, au-delà d'être sur effectivement l'utilisation des acides gras, vous allez quand même avoir un impact sur la mitochondrie. Et un trouble métabolique, c'est aussi une maladie mitochondriale. Donc c'est pour ça que les deux sont importants. Il faut vraiment l'équilibre entre les deux. Et au niveau nutritionnel, ça sera pareil. Donc, pour la santé musculaire, chez un patient qui a un trouble métabolique, il faut faire et de l'endurance et du renforcement musculaire. Maintenant, si je n'ai pas le temps, je fais que du renforcement musculaire. Et sous forme de circuit training, pour avoir quand même un petit peu d'intensité et avoir du cardio et avoir un petit côté HIIT pour avoir quand même un peu d'activation de PGC1-alpha.
Et est-ce qu'on va cibler des muscles en particulier, les gros muscles, je pense notamment aux quadriceps, ischio.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gros muscles, ouais. Quadriceps, ischio.
Ok. Fessiers, faire de la masse. Aussi. Faire de la masse.
On veut. Et des... ouais. Et faire des curls biceps, vous n'allez pas faire de masse.
Donc que penser justement du renforcement du corps. C'est vrai.
Et oui.
Est-ce qu'il y a vraiment c'est ce que je disais chez la femme. En fait, l'idée c'est que chez la femme, ce que je disais tout à l'heure, si je fais 3 entraînements. Et que je coupe, je fais 2 bas du corps, 1 haut du corps. Mais les hommes, quand même, ils auront plutôt tendance à faire l'inverse, hein, 2 haut du corps et 1 bas du corps. Voilà. Alors, c'est quand même important de développer les muscles haut du corps, mais c'est vrai qu'en termes de volume, c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler ses quadriceps et ses ischio et ses fessiers, hein, c'est sûr et certain.
En fait, la réflexion, je ne l'avais pas eu forcément la raison, tu vois, mais en discutant avec toi, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on se dit que si je travaille prioritairement les muscles du bas du corps, je vais avoir un ratio de progression sur le développement de cette glande endocrine, qui est le muscle.
Beaucoup plus important.
Beaucoup plus intéressant en travaillant le bas du corps que. Parce que pour gagner, je dis n'importe quoi, 1 kg de muscle sur le haut du corps, il va vous falloir du travail de fou. Versus gagner 1 kg sur des mollets, des quadris, des ischio et des fessiers, bon, ben. Puis les charges utilisées sont pas du tout les mêmes aussi.
Sont pas du tout les mêmes, tout à fait.
Et le risque de blessure est moins important aussi, je pense. Hein. Si on maîtrise bien sûr les mouvements, sur
après,
les épaules,
il faut bien maîtriser les mouvements. Hein. Ça peut être technique hein,
ouais,
quand même.
Mais...
hein.
Je vois le coucher quand même, il y en a beaucoup qui se... Par rapport à des squats, après avoir, hein, ça dépend des gens et leur connaissance des mouvements, c'est vrai, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte en étant kiné.
Et la mobilité, hein, parce que voilà, faire des squats, si on n'a pas une bonne mobilité, ça peut vite être mal fait, pas
oui,
bien
on peut
exécuter.
Faire de la presse, il y a plein d'exercices quand même qui sont assez...
Oui,
même
voilà, en fait, je pense qu'au début, il faut faire des choses guidées, hein, pas avec des poids libres, il faut faire des choses avec machine pour être guidé et éviter de faire mal les mouvements.
Bien sûr. Est-ce que tu as une dernière question, Pierre, sur l'entraînement avant de partir sur la nutrition?
Non, je pense qu'on a, c'était assez clair. Peut-être juste un dernier petit truc, petit tips pour les auditeurs, parce qu'on a parlé de progression. Donc, moi, je donnais des fourchettes. Je me mouille à donner des fourchettes. Peut-être certains me tomberont dessus, en disant qu'il faut 10 à 20 séries efficaces par semaine, pour être sûr de la progression. Par contre, ne sous-estimez pas le peu de travail qu'il faut pour maintenir de la masse musculaire quand vous êtes en vacances ou quand vous pouvez pas vous entraîner et que vous êtes malade. Parce que là, on serait plutôt en 3 et 5 séries sur la semaine. Donc, en fait, avec une séance mise sur votre semaine ou 10 jours, vous n'allez pas perdre. Donc, la stratégie du foutu pour foutu, il ne faut surtout pas faire ça quand vous ne pouvez pas vous entraîner correctement. Au contraire, une séance full body et vous allez tout entretenir et ce sera magnifique.
Et même si on n'a pas de poids à la maison, faites des séries longues jusqu'à aller chercher l'échec. Il n'y a aucune excuse. On peut toujours travailler et pas forcément d'être à la salle de sport. Bien sûr que c'est plus facile, il y a plus de machines. Mais même à la maison...
On peut s'acheter quelques petites haltères ou avoir des petits élastiques à la maison. Oui. Moi, j'essaie vraiment de dire faire de l'activité physique, une activité physique tous les jours en variant les activités physiques ludiques, le renforcement, l'endurance. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est la différence entre activité physique et sédentarité. On peut avoir une activité physique régulière et être sédentaire parce qu'on va passer, après avoir fait son heure de muscu, 8 heures assis à son bureau. Donc moi, en plus, ce que je demande, c'est de faire 10 squats au poids du corps toutes les 45 minutes à une heure. Toute la journée. Ça, c'est non négociable pour lutter contre la sédentarité. Même dans mes formations, on fait 10 squats au poids du corps toutes les heures. C'est obligatoire.
Non négociable. On va les faire maintenant, alors. Ça va bientôt faire une heure. On va se lever.
Quand ça fait une heure, on y va, on met le chrono, on y va. On les fait en direct, normalement, même en cours. Donc, ouais.
Ça marche. Est-ce qu'on part sur la nutrition vite fait ? On a encore le temps. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? C'est vrai qu'on entend beaucoup de protéines qui reviennent énormément. Qu'est-ce que tu nous conseilles justement au niveau des recommandations nutritionnelles pour essayer d'optimiser notre prise de muscle ?
Alors, de surtout pas suivre les recommandations officielles de la RDA qui est de 0,8 g par kilo de poids corporel sur 5 par jour, parce qu'avec ça, vous n'allez pas avoir une bonne santé musculaire. Ces recommandations-là, c'est juste pour éviter la sarcopénie. Donc, on n'est pas du tout dans un objectif santé, mais bien juste pour éviter l'état pathologique. Donc, c'est d'avoir des apports optimaux en protéines. Et les apports optimaux en protéines, ils sont au moins de 1,2 g par kilo de poids sain par jour. Mais honnêtement, si vous voulez développer votre masse musculaire et qu'en plus, vous avez, notamment, moi, je parle du sujet que je maîtrise, c'est-à-dire un patient qui est en surpoids, en obésité, je suis plutôt à 1,5, voire 2 g par kilo de poids par jour parce que va y avoir également un autre intérêt de consommer des protéines, c'est l'effet satiétogène des protéines qui permettra d'avoir une balance énergétique plus facilement équilibrée sans avoir à lutter contre sa faim. Mais si on se base uniquement sur la santé musculaire sans tenir compte des autres critères, au moins 1,5, je dirais, c'est quand même ce qu'il va y avoir de plus optimal.
Et tu vois, on parle de quelqu'un qui est en surpoids. Donc, admettons que ce soit
un homme. Donc, il faudra d'abord déterminer son poids idéal.
Oui, voilà. Bon, après, les gens, ils voient à peu près quel poids idéal ils devraient faire. Je pense qu'ils ont quand ils ont un repère comme ça, admettons, j'ai 20 kilos de trop, tu sais, sur ces recommandations officielles, il faut la base de calcul, parce que les 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, il faut...
De poids sain, de poids sain.
Voilà.
Faut préciser, de poids sain.
D'accord.
Non, de poids sain.
Donc, si vous êtes une femme et que votre poids de forme, c'est, mettons, je dis n'importe quoi, 60 kilos.
Ça sera entre 100 et 120 grammes.
Et que vous en faites 75.
Même si elle a fait 80. Tout à fait.
Et est-ce qu'il y a une stratégie, justement ? Est-ce qu'on essaye de lisser un petit peu son... Là, je parle que pour le muscle, toujours. Est-ce qu'on a une stratégie de lisser ? Est-ce qu'on a une stratégie à proximité, justement, de la séance particulière ?
Alors, là, encore une fois, tout dépend. Est-ce que je m'adresse au grand public ? Est-ce que je m'adresse à un sportif qui veut performer ? Il y a cette notion de performer à l'entraînement. Bien entendu qu'il va falloir répartir les protéines de manière beaucoup plus stratégique, avec les fenêtres métaboliques, avant, après l'entraînement. Maintenant, je vais parler de ce que moi, je maîtrise, c'est-à-dire le sujet sur l'obésité. L'objectif numéro un, et ça, toutes les études le montrent, c'est d'atteindre cet apport total dans la journée, 1,5 à 2 grammes. Il n'y a pas une grande différence sur est-ce que je fractionne en 5 fois, en 3 fois, est-ce que je mets avant l'entraînement, après l'entraînement. Mais si on se place du côté d'une population de sportifs qui vont performer, ça sera important quand même. Comment je fractionne, à quel moment je mets, le pré-workout, le post-workout. Donc là, on s'adresse quand même plutôt à une population générale. Le but, c'est d'atteindre votre objectif journalier. Et donc, c'est quand même plus facile de fractionner. Donc, en général, il y aura 2-3 repas par jour. On dit qu'un repas va permettre de stimuler la synthèse de protéines musculaires s'il apporte au moins 30 grammes de protéines sur le repas. Donc, ça peut être un peu la baseline de se dire, j'ai pas un repas sans 30 grammes de protéines, dont un acide aminé qui est vraiment très important. C'est l'acide aminé qui va permettre d'inhiber tous les rétrocontrôles qu'il y a sur le complexe mTORC1, c'est la leucine. Il y a protéines et protéines, et on a besoin non seulement d'avoir 30 grammes de protéines, mais dans ces 30 grammes de protéines, il faut qu'il y ait 2,5 grammes au moins de leucine. Voilà, de cet acide aminé-là, spécifiquement la leucine. C'est pour ça qu'il y a eu...
On la retrouve où, justement,
pour dans les protéines d'origine animale, notamment.
Aïe, 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 ouais, Anne,
c'était pour la précision.
Elle y va, Anne.
Ah bon, c'est intéressant, ça, justement. Oui, c'est... Pour les gens, peut-être, qui sont végétariens, qui ne mangent pas, justement, de... Bon, après, on en a déjà parlé dans
chez
les podcasts,
végétariens, on peut faire des associations céréales, légumineuses. On a des protéines, quand même, qui peuvent apporter de la leucine. Mais c'est vrai que venir atteindre... on parle vraiment de seuil de leucine, qui est très important pour stimuler mTORC1. Il faut ces 2,5 grammes. Donc, quand vous regardez un petit peu les protéines que vous mangez, essayez d'aller un tout petit peu plus loin et d'aller regarder l'apport en leucine. C'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires qui ont été très, très tendances hein, dans le domaine du sport, les fameux BCAA, les acides aminés branchés, parce qu'il y a trois acides aminés branchés, valine, leucine, isoleucine. Et dans les BCAA, on a toujours la leucine qui est au moins doublement dosée par rapport à l'isoleucine et la valine. Et ça, c'est vraiment documenté. On ne peut pas dire que la leucine ne sert à rien. La leucine va permettre d'activer le complexe mTORC1.
Et aussi Pierre.
Peut-être on pourra en discuter. On voit souvent des gens qui dépensent des sous dans l'achat de compléments alimentaires et de BCAA, mais qui n'atteignent pas la recommandation d'un gramme 5 de protéines par queue de poids de corps par jour, parce qu'ils prennent des BCA en gélules. Sauf que la priorité, c'est d'avoir la quantité de protéines globales.
En fait, voilà, ce sont deux critères différents et l'un n'annule pas l'autre. C'est-à-dire, si je prends mes gélules de BCAA et que j'ai mes 2,5 grammes, 3 grammes de leucine, mais qu'à côté de ça, j'ai pas tous les autres acides aminés pour faire ma synthèse protéique. Enfin, je peux pas faire de synthèse de protéines. Les protéines, c'est pas juste de la leucine. Il y a plein d'acides aminés quand même. Donc, c'est vraiment et avoir cette leucine et avoir tous les autres acides aminés et donc avoir les 30 grammes de protéines. Donc, c'est plusieurs critères qui doivent coexister à chaque fois dans l'environnement de la prise alimentaire.
Sachant que dans les shakers de protéines, vous avez des BCAA dedans qui sont présents si vous en prenez en supplément.
Bah, de toute façon, quand on fait des shakers de protéines, en général, c'est de la whey. Dans la whey, vous avez de la leucine. La whey est très, très riche en leucine. Donc, quand vous prenez de la whey, il n'y a pas besoin de rajouter des BCAA. La whey en elle-même est très riche en leucine.
Et quel est le placement par rapport justement aux glucides hein, autour de l'entraînement? C'est vrai qu'on a souvent cette image du poulet avec le riz et les légumes à côté chez la personne qui cherche à prendre du muscle. C'est un gros cliché, mais je pense qu'il perdure un petit peu. Est-ce que les glucides sont essentiels à la prise de masse musculaire? Pas du tout, on peut vivre parfaitement sans.
Alors là, encore une fois, il faut revenir à la biochimie métabolique, à cette fameuse stimulation, activation de mTORC1. Donc effectivement, l'insuline, la voie IGF, l'IRS1, AKT, toute cette voie, elle intervient pour activer mTORC1. D'où l'idée qu'il faut consommer des glucides pour activer cette voie et permettre d'activer mTORC1. Néanmoins, il n'est pas indispensable. Je dis bien, chez un individu qui veut pas performer, encore une fois, on peut pas donner les mêmes recommandations pour tout le monde. Je vais pas donner les mêmes recommandations à quelqu'un qui est en surpoids, qui fait pas d'activité, et un sportif de haut niveau qui veut performer. Ça, c'est une évidence. Les deux vont pas du tout avoir besoin de la même consommation de glucides. Mais non, moi, si je reviens juste à la biochimie métabolique, on a besoin, effectivement, donc, de l'insuline. On a besoin d'activer cette voie pour, je vous ai dit, il y a la leucine, pas qu'elle, la leucine. Il y a aussi cette voie qui doit être activée pour que mTORC1 puisse travailler et donc qu'on puisse faire de la synthèse de protéines musculaires. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait un hyperinsulinisme. Il faut un peu d'insuline. Un peu d'insuline. Donc, est-ce qu'on a besoin de manger une plâtrée de pâtes ou de riz ou pommes de terre pour avoir un peu d'insuline? Non, surtout pas le sujet en surpoids-obésité d'ailleurs. Vous savez, on peut faire un petit pic d'insuline physiologique en mangeant des protéines. Hein. Les protéines, la whey notamment, elle va déclencher un pic d'insuline qui va être suffisant pour participer à l'activation de mTORC1. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Là aussi, il faut être nuancé. Oui, l'insuline, la voie de l'insuline intervient dans l'activation de mTORC1, mais on parle d'insuline physiologique, de petits pics d'insuline physiologique. Et si, encore une fois, je m'occupe d'une personne qui est en surpoids-obésité, j'ai absolument pas besoin de lui faire consommer un plat de pâtes, une pomme de terre ou de riz pour activer mTORC1. Il est déjà en hyperinsulinisme chronique de toute façon. Donc, au contraire, il est insulino-résistant. Donc, cette voie est complètement bloquée. Donc, il faut lever l'insulino-résistance pour réactiver cette voie. Donc, la consommation de glucides, je pense qu'on en a pas mal parlé dans le précédent podcast, doit vraiment être adaptée, individualisée. Je suis pas là pour diaboliser les glucides. Forcément, moi, dans ma pratique, j'ai un biais de sélection parce que je n'ai que des personnes en surpoids, obésité, insulino-résistant, diabétique de type 2. Donc, forcément, c'est une des interventions qu'on met en place. Mais un sportif de haut niveau, quelqu'un qui a aucun problème de résistance à l'insuline, qui a une énorme activité physique, qui a une bonne masse musculaire, mais qui mange ses glucides, moi, en soi, ça ne me pose aucun problème à voir sur le long terme. Mais voilà, la prise de glucides doit être adaptée à la propre santé métabolique de chaque individu, à la propre santé musculaire de chaque individu et à sa propre tolérance aux glucides. Voilà mon point de vue sur les glucides.
Les glucides, ça se mérite.
Exactement. Les glucides, ça se mérite. Et on est tous très inégaux. C'est pas juste, mais il y a des polymorphies génétiques qu'on a réussi à identifier aujourd'hui qui explique que deux individus ne vont pas tolérer de la même manière la même quantité de glucides et la même qualité de glucides. Bon, c'est comme ça. Une fois qu'on le sait, on adapte. Alors, une fois l'alimentation, de toute façon, elle doit être individualisée. Donc, à partir du moment où on a compris ça, c'est beaucoup plus simple.
Même si c'est individualisé, est-ce qu'on pourrait avoir une recommandation ? Ça correspond à quoi en termes de grammes de glucides par jour, un régime faible en glucides à peu près ? Ça serait quoi les
régime faible en glucides,
En fait,
il y a plusieurs types de restrictions glucidiques. Hein. En général, si on fait une restriction de glucides, je ne parle pas du sportif de haut niveau entraîné. Hein. Je parle du sujet métabolique.
Quelqu'un de classique, oui, voilà. Ah, tu parles du sujet métabolique et aussi classique aussi.
En fait,
aussi.
Quelqu'un qui n'a pas de problème, on ne va pas lui dire de changer sa consommation de glucides. S'il n'a pas de problème, il continue à manger ses glucides. Moi, je parle du principe que quelqu'un qui a un problème.
Après, si la personne elle en prend trop au quotidien et qu'elle n'a pas forcément besoin, mais tu sais, on reproduit un peu les schémas.
Si elle en prend trop au quotidien, de toute façon, elle va le voir tout de suite. Dans un mois, elle ne ferme plus son pantalon. Donc, c'est simple. Hein. Dans un mois, elle prend le mètre ruban, elle a pris 1 cm de tour de taille. Ça, c'est simple à voir. Donc, quelqu'un qui consomme ou qui a une consommation inadaptée de glucides, ça va se voir très vite. Il va y avoir donc l'augmentation du périmètre abdominal et il va aussi avoir la fatigue postprandiale. Ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus fréquemment. Les gens qui disent « Oh là là, moi, après le repas du midi, j'ai besoin d'aller faire une sieste. » Le brouillard mental, les capacités cognitives qui diminuent. Voilà, c'est typiquement. Mais le plus simple, c'est « Oh là là, je me suis épaissi au niveau de la taille. Okay » Okay. Ça veut vraiment dire que j'ai une consommation de glucides qui est inadaptée. Et donc là, à partir du moment où la consommation de glucides est inadaptée, il faut qu'on aille voir l'impact. Est-ce qu'il y a une insulino-résistance, un hyperinsulinisme chronique? Comment sont les triglycérides? Comment est le taux de HDL cholestérol? Effectivement, la masse grasse, la masse musculaire, le tour de taille. Et à partir de là, en regardant si c'est possible, notamment ces polymorphies génétiques, on est capable de dire, on va être plutôt dans un régime low-carb. Ça veut dire 50 grammes de glucides maximum. Okay. Mais imaginons la personne, elle a décidé qu'en même temps, elle allait faire 3 séances de musculation par semaine, 2 endurances zone 2, 1 HIIT. Et on va pouvoir venir mettre les glucides autour des entraînements. C'est pour ça que je dis, tout est à personnaliser. Quelqu'un qui doit être en very low carb, il va être entre 20, 30 grammes de glucides par jour. Et quelqu'un qui va être en cétogène, il va être à moins de 20 grammes de glucides par jour.
C'est moins de 20 grammes, en fait, c'est
honnêtement, je vous dis... ce qu'il faut comprendre, c'est vous voyez le côté on enlève. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, il a 2 carburants, le glucose et les acides gras, les corps cétoniques. Quand on enlève les glucides, on va pas juste enlever les glucides. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des régimes qui sont complètement aberrants, qui ont été mis en avant, historiquement parlant. Mais parce qu'on a juste enlevé les glucides. Si j'enlève, je change de voiture, je passe une voiture essence et une voiture électrique et que je charge jamais ma voiture électrique. C'est bien beau, mais je vais pas aller faire le Tour de France avec. Donc, quand je diminue les glucides, ça demande impérativement d'augmenter la consommation de l'autre carburant, pour lequel, logiquement, on est fait. D'ailleurs, il faut aussi qu'on parle de ça sur la nutrition tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer mTOR et MPK dans la nutrition? Faites-moi penser à revenir là-dessus.
Tu peux parler de ça maintenant, si tu veux. Il y a aucun souci.
Oui, mais je vais d'abord finir mon truc sur le switch de carburant. Donc forcément, si je ne me place que de la position, je diminue les glucides, j'ai l'impression que je ne peux plus rien manger. Surtout quand on regarde les recommandations officielles actuelles, on est sur 60% de apports en glucides. Heureusement qu'on a commencé à changer un peu la pyramide alimentaire aux États-Unis. J'espère que ça va venir en France, mais bon, c'est mal barré, je pense. Mais si j'apporte un autre carburant, et ben, à ce moment-là, finalement, le temps de s'adapter, de redévelopper une bonne flexibilité métabolique, que ma mitochondrie soit capable d'utiliser les acides gras, qu'on soit capable de faire de l'acétogenèse, de faire de l'acétolyse, ben, tout va bien. Et finalement, on retrouve un équilibre. Mais juste diminuer les glucides, ça n'a pas de sens. Si je diminue les glucides, il faut que j'augmente l'autre substrat énergétique que sont les lipides. Donc, c'est pas si compliqué que ça, parce que d'autant que quand vous faites ce type de modèle high fat low carb, vous allez complètement modifier le climat hormonal. Et notamment une hormone dont on parle tout le temps, parce que c'est aujourd'hui un des best-sellers de Big Pharma, GLP-1, les analogues GLP-1. Donc, quand vous mangez des lipides, vous allez augmenter votre sécrétion endogène de GLP-1. Et donc, si j'ai plus de GLP-1, bah, j'ai une meilleure satiété. Donc, j'ai moins envie d'aller manger mon assiette de pâtes ou mon pain ou je sais pas quoi. Par contre, quand on mange des glucides, pas de sécrétion de GLP-1. Donc, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Les macronutriments, c'est pas juste des calories. C'est un impact sur toutes nos hormones. Et nos hormones impactent, elles, directement nos comportements alimentaires. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de refuser une assiette de pâtes si j'ai pas faim. Et comment je fais pour pas avoir faim? Bah, si j'ai une bonne sécrétion de GLP-1, si j'ai mon insuline qui est basse, si je suis capable d'utiliser mes acides gras, vous savez, c'est le cycle de Grandel, là. Je fais rentrer mes acides gras, bah, tout va bien. Tout va bien. Mais encore une fois, est-ce qu'on est tous obligés de faire ça? Non. Non. Mais un sujet métabolique, ça va être une des interventions. Et donc, je rebondis sur mon truc de comment on fait au niveau mTOR à MPK. Voilà. Ben, en fait, mTOR, je vous ai dit, il y a deux signaux, principaux, mécaniques, donc exercice de résistance, et nutritionnels, donc les protéines, la leucine. Okay? Et la MPK, c'est le jeûne. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes de cancer? Ben, parce qu'on est dans une société où on mange ad libitum, on mange tout le temps, snacking, on mange, bientôt on va manger, on va se réveiller la nuit pour manger. Donc là, effectivement, c'est une surstimulation de mTOR qui ne laisse pas la place à MPK. Donc, une des recommandations nutritionnelles pour avoir un bon équilibre entre mTOR et MPK, c'est d'avoir des phases où je m'alimente et des phases où je jeûne. Donc, notamment, ces fameuses fenêtres de restriction alimentaire, l'alimentation en temps restreint, l'intermittent fasting, ça va être intéressant pour laisser de la place à MPK. Donc, voilà, j'alterne mes phases où je vais manger. Donc, je vais peut-être manger sur des fenêtres de 6, 7, 8 heures. Quelqu'un qui est métaboliquement sain, il va manger sur 12 heures. Mais il y aura 12 heures où il ne mangera pas. Et où on aura de la signalisation de MPK. Et plus j'ai un truc métabolique, plus ma fenêtre, elle se réduit.
Tu peux nous rappeler à quoi ça sert de stimuler AMPK, s'il te plaît?
Comme je vous l'expliquais, AMPK, déjà, il va inhiber mTOR. Donc, quand on a besoin d'éviter la prolifération cellulaire anarchique, bah, c'est quand même important. Et la MPK va jouer sur les mitochondries. C'est la voie de la biogenèse mitochondriale. Hein, il y a aussi le PGC1-alpha. C'est hyper important, la MPK. Parce qu'on a besoin d'avoir un bon équilibre entre les deux, notamment pour nos mitochondries.
Alors, est-ce que...
L'autophagie, le recyclage, tout ça. Si vous avez des cellules endommagées, il faut... C'est la voie où on met tout au repos, on recycle, on nettoie proprement.
Est-ce que d'aller faire un petit footing à jeun le matin, est-ce que du coup, ce serait quelque chose que tu trouves malin?
Ça dépend chez qui en soi, quelqu'un
qui est en forme, qui a un petit surpoids.
À mon avis,
dans un monde en règle générale où tout le monde surconsomme un peu trop de glucides, même si on se sent en bonne santé, je pense que tous nos auditeurs consomment un peu peut-être trop de glucides par rapport à ce qu'ils font. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est plutôt dans cette optique-là de on va plutôt bien, on n'a pas forcément de soucis. Mais est-ce que quand même on se fait du bien en faisant un petit footing à jeun le matin comme le conseille Pierrot?
Je pense que ça dépend du niveau de stress par rapport au cortisol. C'est vrai que le fait de manger, ça permet de réguler un petit peu le pic de cortisol matinal. Est-ce que d'aller courir et à jeun, ou même ceux qui vont juste prendre un café, Je pense que c'est à tester. Moi, je dis souvent, écoutez, vous testez. Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous êtes à jeun ou quand vous avez mangé un peu avant d'aller faire l'activité? Est-ce que c'est forcément mal? Je dirais que non. Ça peut permettre de prolonger la MPK, hein, c'est vrai. Hein, parce que l'entrée en zone 2 active à MPK. Donc, et en plus, je jeûne, donc je suis à fond dans MPK. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vois pas le mal. Maintenant, si je veux vraiment construire de la masse musculaire, je n'irai pas faire de l'endurance zone 2 à jeûne.
Ok, et moi je me permets juste de rebondir sur le jeûne que tu as évoqué précédemment. Mmh. Donc tu dis, j'imagine que tu dis d'espacer bien sûr, de laisser une fenêtre de temps, mais par contre on garde la même quantité de calories dans la journée, j'imagine. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de faire des repas trop conséquents, vu qu'on va répartir 3 repas sur 2, est-ce qu'on ne va pas mettre une surcharge au niveau justement de notre digestion? Ou ça c'est un souci, on n'a pas à s'inquiéter?
Bon, en général, les fenêtres, elles sont à peu près de 8 heures. Donc, sur 8 heures, on peut quand même faire 2 repas, une collation. Donc, en général, on arrive entre 30 et 40 grammes, voire un petit peu plus de protéines sur chaque repas. Ça pose pas okay. de problème. Et tant que quand vous êtes en ce qu'on appelle en time-wise eating, s'il est suffisamment long, ça laisse le temps aussi aux mécanismes d'autophagie de se mettre en place. On a besoin d'un petit peu moins de protéines. Il y a des adaptations, notamment hormonales, avec la GH qui augmente. Donc, on a besoin d'un petit peu moins de protéines. Bon, ça, c'est si on le fait sur le long cours, mais ce sont des notions qui peuvent être intéressantes. Chez le sujet métabolique, en tout cas, c'est un très bel outil d'utiliser ce qu'on appelle le jeûne intermittent plus couramment, on va dire. Il faudrait parler de fenêtre sur alimentaire, mais c'est la même chose.
Et juste avant de finir sur la complémentation, j'avais une dernière question. C'était sur ces stocks de glycogène qu'il y a dans le muscle. Quel intérêt va y avoir de les vider? Est-ce qu'il y a un intérêt à les vider? Quel impact ça va avoir justement sur le muscle? Est-ce qu'on l'endommage peut-être un peu trop en l'évidant justement? Est-ce qu'il faut essayer d'éviter de les vider? Est-ce qu'il y a des études sur ça? Je sais pas, je pose une question, mais je ne sais pas si tu as la réponse.
Alors bon, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, encore une fois, la performance dans l'activité physique, mais c'est vrai que quand vous regardez un peu dans le sport d'endurance, les stratégies qui sont mises en place pour performer, notamment dans les trails, les ultra-trails, c'est justement de faire ces recharges en glycogène musculaire et hépatique d'ailleurs, pour pouvoir tenir la distance. Aujourd'hui, vous avez des athlètes qui sont capables de baisser leur taux de glycogène musculaire et de continuer quand même à performer. Hein, parce qu'ils vont utiliser
d'autres moyens. Au niveau hormonal, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas de retour sur ce que ça va amener. Tu dis que c'est une glande justement endocrine, le muscle. On ne sait pas ce que ce vidange justement de stock, elle peut amener ou non.
Déjà, on perd beaucoup d'eau, parce que quand vous stockez du glycogène, vous stockez pour 1 gramme 3 grammes d'eau, donc vous perdez beaucoup d'eau. Forcément, il va falloir retravailler un petit peu les électrolytes, parce que vous avez aussi l'insuline qui diminue, vous avez du coup une fuite des électrolytes, notamment du sodium au niveau urinaire. Donc, c'est vrai que là, il faut rebalancer un petit peu tous les électrolytes. Mais dans la performance, moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Okay. Donc, je ne me prononcerai pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit deux grandes écoles, l'école où ils sont pro-recharge en glycogène et les écoles qui disent « non, on n'est pas obligé de faire ça et on peut fonctionner sur les corps cétoniques ».
C'était Fabrice Kuhn qui nous avait parlé de ça, Pam, je pense que tu t'en souviens. On avait reçu Dr Fabrice Kuhn sur l'entraînement en course à pied et il nous avait parlé des entraînements à glycogène bas. Et ça permettait de créer une surcompensation, en fait, et d'augmenter les stocks de glycogène et la capacité du muscle à stocker. Comme il travaillait à stock bas, quand derrière tu le recharges, tu te retrouvais avec des stocks qui étaient plus importants.
Oui, en général, on a jusqu'à 500 grammes à peu près au niveau de glycogène.
C'est une stratégie musculaire. Avancée. Hein.
Alors moi, je fais plutôt partie de la team Timothy Knox, donc… T'as dit tout. Il y a en fait deux grandes écoles dans le domaine de l'endurance et de la performance. Moi, je fais plutôt partie de la team Knox et Ulrich Jenisson, par exemple, qui ne sont pas du tout sur ces stratégies-là.
Oui, après, il disait quand même aussi que c'était des séances qui étaient très coûteuses et qu'il fallait le faire de façon proche de l'événement, de ne pas faire ça toute l'année. Il y avait quand même des modalités à respecter. Donc, je pense que la vérité, elle est toujours pareille entre les deux. Il faut peut-être de temps en temps aller le chercher, mais au quotidien, pas forcément aller dedans. Peut-être pour finir, parce que ton temps est précieux, on va peut-être finir par la complémentation. Est-ce qu'on en a besoin déjà ou pas spécialement? Est-ce que c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau ou est-ce que ça a un vrai rôle juste pour la prise de masse musculaire?
Alors, pour la prise de masse musculaire, vous avez compris que vraiment la priorité, c'est le signal mécanique et le signal nutritionnel. Donc déjà, si je vais m'entraîner à la salle de sport, je soulève suffisamment lourd et j'ai mes protéines dans mon assiette avec la piscine, c'est déjà très bien. Mais on se rend compte quand même que c'est challengeant, hein, notamment pour la femme, d'arriver à atteindre les apports en protéines avec les aliments. Et donc, c'est vrai que je dirais que le numéro un en complément alimentaire, c'est la whey. Hein, c'est une whey de bonne qualité, un hydrolysat whey qui va permettre d'atteindre les apports parce que bah, elle a du mal à consommer les protéines dans l'assiette. Numéro 1. Numéro 2, la grande star de la santé musculaire qui a été remise au goût du jour, c'est la créatine, bien entendu. Créatine très intéressante. Aujourd'hui, on a des études maintenant sur la partie neuro avec des doses beaucoup plus épaisses. Néanmoins, mais la créatine, c'est vrai que pour la santé musculaire, parce que, va permettre d'améliorer notamment les performances à l'effort. Et le métabolisme énergétique de manière générale, hein, puisque du coup, on a une navette créatine-phosphocréatine qui permet de recycler l'ATP grâce à cette phosphocréatine. C'est la phosphocréatine qui va rendre le phosphate à l'ADP pour former l'ATP, donc pour pouvoir avoir de l'énergie disponible très très rapidement. C'est vraiment grâce à cette voie énergétique-là de la phosphocréatine. Là, les BCAA, comme je vous l'ai dit, si vous prenez de la whey, il y a de la leucine, donc c'est vraiment intéressant. Si vous n'êtes pas sûr que dans l'assiette, vous avez votre leucine, peut-être prendre un petit peu de BCA, mais il faut qu'il y ait des protéines dans l'assiette. Sinon, voilà, de toute façon, il va vous en manquer. Donc, bon,
surcoté.
Je suis pas persuadée. Bien entendu, après, il va y avoir tous les complexes qui vont permettre à la mitochondrie. Hein. On a dit un muscle fonctionnel, c'est un muscle qui a des mitochondries fonctionnelles. Donc, aller un peu screener les nutriments qui sont importants pour la mitochondrie et venir supplémenter si besoin. Hein. Donc, tous les complexes mitochondriaux peuvent être intéressants, notamment avec le coenzyme Q10, le PQQ, le magnésium qui est extrêmement important. Le zinc, le fer, le sélénium, bon, tout ça, ça va être sur un dosage. On sait également que la vitamine D et les oméga-3 sont importants pour la santé musculaire. Donc, ça peut être, mais encore une fois, tout ça, c'est à personnaliser, individualiser, sur base de bilan, sur base de questionnaires fonctionnels. Je n'encourage jamais l'automédication, mais c'est pour vous donner un peu une idée des compléments qu'on va être amené à potentiellement proposer dans des protocoles micronutritionnels. Voilà, alors, il y a l'HMB aussi dont on parle pas mal, qui est un métabolite de la leucine, mais c'est dans des situations très spécifiques de blessures, de récupération post. Voilà, ça peut être intéressant. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour des.
C'est déjà
des
pas mal. Hein.
Alimentaires. Ouais. Alors il faut savoir qu'on n'a pas abordé un point, mais qui est important. On avait fait un webinaire avec Stéphane Résimon là-dessus sur santé musculaire et hormonaux. Moi, j'avais parlé de la partie vraiment physiologie, biochimie, métabolique, et lui, il avait parlé de la partie hormonaux. Donc, c'est vrai que le climat hormonal, il est hyper important pour optimiser la santé musculaire et que donc, on va être amené à évaluer, quand je parle de la santé hormonale, ça va des hormones thyroïdiennes, aux hormones surrénaliennes, aux hormones sexuelles, hormones de croissance. Ça va être aussi, quand on aborde une personne en micronutrition, c'est vraiment l'aborde à 360 degrés. Je ne vais pas qu'aller regarder le muscle parce que je sais que d'autres facteurs vont venir impacter le muscle. La thyroïde, les gonades, bien entendu l'insuline. Donc, on pourra être amené potentiellement à venir optimiser aussi le climat hormonal. La femme en périménopause, ménopause, ménopausée surtout qui a sa chute d'œstrogène, ben, on sait qu'il y a un impact énorme sur la répartition masse grasse, masse musculaire. Donc, elle sera sans doute amenée à mettre en place, s'il n'y a pas de contre-indication, un traitement hormonal de la ménopause pour améliorer sa santé musculaire.
Eh bien, c'était très complet. Je pense que les auditeurs ont eu vraiment pas mal d'informations. Donc maintenant, il ne reste plus quand même qu'à aller à la salle et à pousser. Hein. Ou même à la maison, on l'a compris, mais c'est quand même la base, hein, ça reste ça. Vous pouvez prendre toute la complémentation que vous voulez et les protéines que vous voulez. Si vous ne faites pas un minimum d'activité physique avec résistance ou sans résistance au poids de corps, mais il faudra des séries un petit peu plus longues. Vous l'avez bien compris. Est-ce que Pierre, tu as une dernière question peut-être pour clôturer?
Non, non, il faut l'influx. Il faut envoyer l'information au corps hein, pour qu'ils répondent et qu'il faut le stresser un peu suffisamment. Et on vous a donné les clés.
Il faut une contrainte. Et j'aime bien parler de... Moi, ce n'est vraiment pas mon domaine d'expertise, mais étant... voilà, j'essaie de mettre en application un petit peu ce que je recommande. Et je suis beaucoup dans la connexion cerveau-muscle. Vraiment, quand je fais ma séance, je ne suis pas en train de penser à ce que j'ai à faire. Je suis vraiment dans... Je réalise mon mouvement et je fais ce schéma. J'essaie de connecter mon cerveau à mon muscle. je ressens la contraction musculaire. Ça, c'est vraiment important, je pense.
On peut appeler ça l'intention, souvent. C'est un mot qui revient. Quand vous faites un squat, notamment, ou une fente, de bien écraser le sol, bien appuyer, bien vous gainer, et pas juste faire un mouvement pour faire un mouvement, mais faites-le vraiment à 1000%. Un grand merci, en tout cas, docteur, d'avoir été présent avec nous. On vous retrouve donc à l'Hypersanté le 21 et 22 mars. Vous avez les liens en description. Si vous avez des questions, vous pourrez même le poser en présentiel au docteur Anne-Luca. Et bien sûr, la formation qui est disponible en bas avec un petit code promo pour les professionnels de santé, hein, c'est bien ça?
Pour les professionnels de santé, exactement. Formation sur la santé musculaire pour vos patients grand public, pas pour vos patients sportifs. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas une experte de la performance sportive, mais c'était vraiment, encore une fois, je termine là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Tout professionnel de santé, on doit essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de la santé musculaire de l'individu lambda qui n'est pas là pour faire des compétitions, qui n'est pas là pour avoir un physique parfait, mais qui est juste là pour dire « Ok, moi, je veux pouvoir jouer avec mes petits-enfants quand j'aurai 80 ans. » Voilà, c'est un peu dans cette démarche-là que j'ai créé cette formation. Et c'est la démarche dans laquelle je m'inscris au quotidien.
Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast. J'espère que vous appréciez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, mettre un petit commentaire aussi. Ça donne beaucoup de force. Un grand merci à tous. Et vous avez tous les liens en description. Et peut-être à bientôt pour un nouvel épisode.
À bientôt. Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.